Othello, acte 4, scène 1. Devant le château, entre Othello et Iago. Iago. Le croyez-vous? Othello. Si je le crois, Iago. Iago. Quoi? Donner un baiser en secret? Othello. Un baiser usurpé. Iago. Ou rester au lit toute nue avec son ami, une heure au plus, sans songer à mal. Othello. Rester toute nue avec un ami, Iago, sans songer à mal? C'est user d'hypocrisie avec le diable. Ceux qui n'ont que des pensées vertueuses et qui s'exposent ainsi, tentent le ciel en voulant que le diable tente leur vertu. Iago. S'ils s'abstiennent, ce n'est qu'une faute vénielle. Mais si je donne à ma femme un mouchoir... Othello. Eh bien, après? Iago. Eh bien, il est à elle, monseigneur, et comme il est à elle, elle peut, je pense, en faire cadeau à n'importe quel homme. Othello. Elle est gardienne de son honneur aussi. Peut-elle le donner? Iago. L'honneur est une essence qui ne se voit pas. Beaucoup semblent l'avoir qui ne l'ont plus. Mais pour le mouchoir? Othello. Par le ciel, je l'aurais oublié bien volontiers. Tu dis... Oh, cela revient sur ma mémoire, comme sur une maison infectée le corbeau de mauvais augure. Tu dis qu'il avait mon mouchoir? Iago. Oui. Qu'est-ce que cela fait? Othello. C'est bien plus grave alors. Iago. Et quoi? Si je vous disais que je l'ai vu vous faire outrage, que je l'ai entendu dire... Il est de par le monde des marauds qui, après avoir à force d'importunité, ou par suite d'un caprice spontané qu'ils inspirent, entraîné ou séduit une femme... ne peuvent s'empêcher de bavarder ensuite. Othello. Est-ce qu'il a dit quelque chose? Iago. Oui, monseigneur, mais soyez-en sûr, rien qui ne soit prêt à nier sous serment. Othello. Qu'a-t-il dit? Iago. Ma foi, qu'il avait eu... je ne sais quoi. Othello. Quoi? Quoi? Iago. Certaines conversations. Othello. Avec elle? Iago. Avec elle, sur elle, comme vous voudrez. Othello. Avec elle, sur elle, une conversation sur elle pourrait n'être qu'une causerie à son sujet. Mais une conversation avec elle serait criminelle. Le mouchoir, cet aveu, le mouchoir, lui faire avouer et puis lui mettre la corde au cou. Non. D'abord lui mettre la corde au cou, et puis lui faire avouer. J'en frissonne. Une nature ne se laisserait pas envahir ainsi par l'ombre de la passion sans quelque grande cause. Ce ne sont pas des mots qui m'agitent comme cela. Pff, nez, oreilles et lèvres, est-il possible? L'aveu, le mouchoir. Oh, diable! Il tombe évanoui. Iago. Travaille, ma médecine, travaille. C'est ainsi qu'on attrape les niais crédules, et c'est encore ainsi que plus d'une dame digne et chaste, malgré toute son innocence, est exposée aux reproches. Entre Cassio. Hola, monseigneur! Monseigneur! Othello! Ah, c'est vous, Cassio! Cassio. Qu'y a-t-il? Iago. Monseigneur est tombé en épilepsie. C'est sa seconde attaque. Il en a eu une hier. Cassio. Frottez-lui les tempes. Iago. Non, laissez-le. La léthargie doit avoir son cours tranquille. Sinon, l'écume lui viendrait à la bouche et tout à l'heure il éclaterait en folie furieuse. Tenez, il remue. Éloignez-vous un moment. Il va revenir à lui. Quand il sera parti, je voudrais causer avec vous d'une importante affaire. Sort Cassio. Comment cela va-t-il, général? Est-ce que vous ne vous êtes pas blessé à la tête? Othello. Tu te moques de moi? Iago. « Me moquer de vous? Non, par le ciel !»« Je voudrais seulement vous voir subir votre sort comme un homme. » Othello. « Un homme qui porte corne n'est qu'un monstre et une bête. » Iago. « Il y a bien des bêtes alors dans une ville populeuse, et bien des monstres civilisés. » Othello. « A-t-il avoué ?» Iago. « Mon bon monsieur, soyez un homme. Songez que tout confrère barbu, attelé à ce joug-là, peut le traîner comme vous. » Il y a des millions de vivants qui reposent nuitamment dans un nid banal qu'ils jureraient être à eux seuls. Votre cas est meilleur. Oh, sarcasme de l'enfer, suprême moquerie du démon, éteindre une impudique sur une couche confiante et la croire chaste. Non, que je sache tout, et sachant ce que je suis, je saurai comment la traiter. Othello, oh, tu as raison, cela est certain. Iago, tenez-vous un peu à l'écart et contenez-vous dans les bornes de la patience. Tandis que vous étiez ici accablé par la douleur, émotion bien indigne d'un homme comme vous, Cassio est venu. Je l'ai conduit en donnant de votre évanouissement une raison plausible. Je lui ai dit de revenir bientôt me parler ici. Ce qu'il m'a promis. Cachez-vous en observation et remarquez les grimaces, les moues, les signes de dédain qui vont paraître dans chaque trait de son visage. Car je vais lui faire répéter toute l'histoire. Où, comment, combien de fois, depuis quelle époque, et quand il en est venu aux prises avec votre femme, quand il compte y revenir. Je vous le dis, remarquez seulement ses gestes, mais morbleu, de la patience. Ou je dirais que vous êtes décidément un frénétique et non plus un homme. Othello. Écoute, Iago, je me montrerai le plus patient de tous les hommes, mais aussi, tu m'entends, le plus sanguinaire. Iago. Il n'y a pas de mal, pourvu que vous mettiez le temps à tout. Voulez-vous vous retirer? Othello s'éloigne et se cache. Je vais maintenant questionner Cassio sur Bianca, une ménagère qui, en vendant ses attraits, s'achète du pain et des vêtements. Cette créature raffole de Cassio. C'est le triste sort de tout catin d'en dominer beaucoup pour être enfin dominé par un seul. Quand il entend parler d'elle, Cassio ne peut s'empêcher de rire aux éclats. Le voici qui vient. Rentre Cassio. À le voir sourire, Othello va devenir fou. Et son ignare jalousie va interpréter les sourires, les gestes et les insouciantes manières du pauvre Cassio, tout à fait à contresens. Comment vous trouvez-vous, lieutenant? Cassio. D'autant plus mal que vous me donnez un titre dont la privation me tue. Iago. Travaillez bien, Desdemona, et vous êtes sûr de la chose. Bah, si l'affaire était au pouvoir de Bianca. Oh, comme vous réussiriez vite. Cassio, riant. Hélas, la pauvre créature. Othello, à part. Voyez comme il rit déjà. Iago. Je n'ai jamais connu de femme aussi amoureuse d'un homme. Cassio. Hélas, pauvre coquine, je crois vraiment qu'elle m'aime. Othello, à part. C'est cela, il s'en défait en faiblement et il rit. Iago. Écoutez, Cassio. Il lui parle à l'oreille. Othello, à part. Voilà Iago qui le prie de tout lui répéter. Continue, bien dit, bien dit. Iago. Elle donne à entendre que vous l'épouserez. Est-ce votre intention? Cassio éclatant. Othello, à part. Tu triomphes, Romain, tu triomphes! Cassio. Moi, l'épouser? Quoi, une coureuse? Je t'en prie, et quelque charité pour mon esprit. Ne le crois pas aussi malade. Othello, à part. Oui, oh, gagnant de rire. Iago. Vraiment, le bruit court que vous l'épouserez? Cassio. De grâce, parle sérieusement. Je ne suis qu'un scélérat, si cela n'est pas. Othello, à part. Avez-vous donc compté mes jours? Bien. Cassio. C'est une invention de la Guenon. Si elle a l'idée que je l'épouserai, elle la tient de son amour et de ses illusions, et nullement de mes promesses. Othello, à part. Iago me fait signe. C'est que l'autre commence l'histoire. Cassio. Elle était ici, il n'y a qu'un moment. Elle me hante en tout lieu. J'étais l'autre jour au bord de la mer à causer avec plusieurs Vénitiens. Soudain, cette folle arrive et me saute ainsi au cou. Cassio imite le mouvement de Bianca. Othello, à part. En s'écriant, « Oh, mon cher Cassio !» Apparemment, c'est ce qu'indique son geste. Cassio. Elle se pend et s'accroche tout en larmes après moi. Puis elle m'attire et me pousse. Oh, oh. Il parle bas à Iago. Othello, à part. Maintenant, il lui raconte comment elle l'a entraîné dans ma chambre. Oh, je vois bien votre museau, mais je ne sais quel chien je vais jeter dessus. Cassio. Vraiment, il faut que je la quitte. Iago. Devant moi? Tenez. La voici qui vient. Entre Bianca. Cassio. C'est une maîtresse fine et diantrement parfumée encore. À Bianca. Qu'avez-vous donc à me hanter ainsi? Bianca. Que le diable et sa mère vous hantent vous-même! Que me vouliez-vous avec ce mouchoir que vous m'avez remis tantôt? J'étais une belle sotte de le prendre. Il faut que j'en fasse un tout pareil, n'est-ce pas? comme cela est vraisemblable que vous l'ayez trouvé dans votre chambre et que vous ne sachiez pas qu'il y a laissé. C'est le présent de quelques donzelles. Et il faudrait que je vous en fisse un pareil. Tenez, donnez-le à votre poupée. Peu m'importe comment vous l'avez eu. Je ne me charge de rien. Cassio. Voyons, ma charmante Bianca. Voyons, voyons. Othello, à part. Par le ciel, ce doit être mon mouchoir. Bianca. Si vous voulez venir souper ce soir, vous le pouvez. Si vous ne voulez pas, venez dès que vous y serez disposé. Elle sort. Iago. Suivez-la, suivez-la. Cassio. Ma foi, il le faut. Sans cela, elle s'emporterait dans les rues. Iago. Souperez-vous chez elle? Cassio. Ma foi, j'en ai l'intention. Iago. C'est bien. Il se peut que j'aille vous voir, car je serais bien aise de vous parler. Cassio. De grâce, venez. Voulez-vous? Iago. Partez, il suffit. Cassio sort. Othello quitte sa cachette. Othello. Comment le tuerais-je, Iago? Iago. Avez-vous vu comme il a ri de sa vilenie? Othello. Oh, Iago. Iago. Avez-vous vu le mouchoir? Othello. Était-ce le mien? Iago. Par cette main levée. Et vous voyez quel cas il fait de la folle créature, votre femme. Elle lui a donné ce mouchoir, et lui, il l'a donné à sa putain. Othello. Oh, je voudrais le tuer pendant 9 ans. Une femme si belle, une femme si charmante, une femme si adorable. Iago. Allons, il faut oublier cela. Othello. Oui, qu'elle pourrisse, qu'elle disparaisse et qu'elle soit damnée dès cette nuit. Car elle ne vivra pas, non? Mon cœur est changé en pierre. Je le frappe et il me blesse la main. Oh, le monde n'a pas une plus adorable créature. Elle était digne de reposer aux côtés d'un empereur et de lui donner des ordres. Iago. Voyons, ce n'est pas là votre affaire. Othello. L'infâme. Je dis seulement ce qu'elle est. Si adroite avec son aiguille. Admirable musicienne. Oh, avec son chant, elle apprivoiserait un ours. Et puis, d'une intelligence, d'une imagination si élevée, si féconde. Iago. Elle n'en est que plus coupable. Othello. Oh, 1000 et 1000 fois plus. En outre, d'un caractère si affable. Iago. Trop affable, vraiment. Othello. Oui, cela est certain. Mais quel malheur, Iago. Oh, Iago, quel malheur, Iago. Iago. Si vous êtes si tendre à son iniquité, donnez-lui patente pour faire le mal. Car si cela ne vous touche pas, cela ne gêne personne. Othello. Je la hacherai en miettes, me faire cocu. Iago. Oh, c'est affreux à elle. Othello. Avec mon officier. Iago. C'est plus affreux encore. Othello. Procure-moi du poison, Iago, cette nuit. Je ne veux pas avoir d'explication avec elle, de peur que son corps et sa beauté ne désarment mon âme encore une fois. Cette nuit, Iago. Iago. N'employez pas le poison. Étranglez-la dans son lit. Le lit même qu'elle a souillé. Othello. Bon, bon, la justice de ceci me plaît. Très bon. Iago. Et quant à Cassio, laissez-moi être son croque-mort. Vous en apprendrez davantage vers minuit. Othello. Excellent. Bruit de trompette. Quelle est cette fanfare? Iago. Quelques messages de Venise, pour sûr. C'est Lodovico qui vient de la part du doge. Et voyez, votre femme est avec lui. Entre Lodovico, Desdemona, et leur suite. Lodovico. Dieu vous garde, digne général. Othello. Je le souhaite de tout mon cœur, monsieur. Lodovico. Le doge et les sénateurs de Venise vous saluent. Il lui remet une dépêche. Othello. Je baise l'instrument de leur bon plaisir. Il ouvre la dépêche et lit. Desdemona. Et quoi de nouveau, mon bon cousin Lodovico? Iago à Lodovico. Je suis bien content de vous voir, signor. Soyez le bienvenu à Chypre. Lodovico. Merci. Comment va le lieutenant Cassio? Iago. Il vit, monsieur. Desdemona. Cousin, il est survenu entre lui et monseigneur une désagréable rupture. Mais vous arrangerez tout. Othello d'une voix sourde. Êtes-vous sûr de cela? Desdemona à Othello. Monseigneur? Othello lisant. Ne manquez pas de le faire dès que vous aurez... Lodovico à Desdemona. Il ne te parlait pas, il est occupé de la dépêche. Est-ce qu'il y a un différend entre ton mari et Cassio? Desdémona. Oui, un très malheureux. Je ferai bien des choses afin de les réconcilier, pour l'amour que je porte à Cassio. Othello. Feu et soufre. Desdémona. Monseigneur? Avez-vous votre raison? Desdémona à Lodovico. Quoi? Est-ce qu'il est fâché? Lodovico. Il est possible que cette lettre l'agite, car je crois qu'on le rappelle à Venise et que Cassio est désigné pour lui succéder. Desdémona. Ma foi, j'en suis bien aise. Othello. En vérité? Desdémona. Monseigneur? Othello. Je suis bien aise, moi, de vous voir en démence. Desdémona. Comment, mon doux Othello? Othello. Démon! Il la frappe. Desdémona. Je n'ai pas mérité ceci. Lodovico. Monseigneur, voilà une chose qu'on ne croirait pas à Venise, quand même je jurerais l'avoir vue. C'est trop fort. Faites-lui réparation, elle pleure. Othello. Oh, démon, démon! Si les pleurs d'une femme pouvaient féconder la terre, chaque larme qu'elle laisse tomber ferait un crocodile. À Desdémona. Hors de ma vue! Desdémona s'en allant. Je ne veux pas rester si je vous offense. Lodovico. Vraiment? Voilà une femme obéissante. J'en supplie votre seigneurie, rappelez-la. Othello, appelant. Madame? Desdémona. Monseigneur? Othello à Lodovico. Que lui voulez-vous, monsieur? Lodovico. Qui, moi, monseigneur? Othello. Oui, vous avez désiré que je la fisse revenir. Monsieur, elle peut se tourner et se retourner et aller de l'avant et se retourner encore. Elle peut pleurer, monsieur, pleurer. Elle est obéissante, comme vous dites. Obéissante. Très obéissante. À Desdémona. Continuez vos sanglots. À Lodovico. Quant à ceci, monsieur? À Desdémona. Oh, l'émotion est bien jouée. À Lodovico. Je suis rappelé à Venise. À Desdémona. Allez-vous-en, je vous enverrai chercher tout à l'heure. À Lodovico. Monsieur, j'obéis à cet ordre et je vais retourner à Venise. À Desdémona. Hors d'ici, arrière! Desdémona sort. Cassio prendra ma place. Mais, monsieur, ce soir, je vous supplie de souper avec moi. Vous êtes le bienvenu, monsieur, à Chypre. Bouc et singe! Il sort. Lodovico. Est-ce là ce noble mort dont notre Sénat unanime proclame la capacité suprême? Est-ce là cette noble nature que la passion ne pouvait ébranler? Cette solide vertu que ni la balle de l'accident ni le trait du hasard ne pouvaient effleurer ni entamer? Iago. Il est bien changé. Lodovico. Sa raison est-elle saine? N'est-il pas en délire? Iago. Il est ce qu'il est. Je ne dois pas murmurer une critique. S'il n'est pas ce qu'il devrait être, plutôt ciel qu'il le fût. Lodovico. Quoi? Frapper sa femme? Iago. Ma foi, ce n'était pas trop bien. Mais je voudrais être sûr que ce coup doit être le plus rude. Lodovico. Est-ce une habitude chez lui? Ou bien sont-ce ces lettres qui ont agi sur son sang et lui ont inoculé ce défaut? Iago. Hélas, hélas. Ce ne serait pas honnête à moi de dire ce que j'ai vu et appris. Vous l'observerez. Ces procédés même le feront assez connaître pour m'épargner la peine de parler. Ne le perdez pas de vue seulement, et remarquez comment il se comporte. Lodovico. Je suis fâché de m'être ainsi trompé sur son compte. Ils sortent.
Scène 2. À l'appartement de Desdémona, entre Othello et Emilia. Othello.
Vous n'avez rien vu alors?
Emilia.
Ni jamais rien entendu, ni jamais rien soupçonné?
Othello.
Si fait. Vous les avez vus ensemble, elle et Cassio.
Emilia.
Mais alors, je n'ai rien vu de mal, et pourtant, j'entendais chaque syllabe que le moindre souffle échangeait entre eux.
Othello.
Quoi? Ils n'ont jamais chuchoté?
Emilia.
Jamais, monseigneur.
Othello.
Ils ne vous ont jamais éloigné?
Emilia.
Jamais?
Othello.
Sous prétexte d'aller chercher son éventail, ses gants, son masque ou quoi que ce soit?
Emilia.
Jamais, monseigneur.
Othello.
C'est étrange.
Emilia.
Monseigneur, j'oserais parier qu'elle est honnête et mettre mon âme comme en jeu. Si vous pensez autrement, chassez votre pensée. Elle abuse votre cœur. Si quelque misérable vous a mis cela en tête, que le ciel l'en récompense par la malédiction qui frappa le serpent. Car si elle n'est pas honnête, chaste et fidèle, il n'y a pas de mari heureux. La plus pure des femmes est noire comme la calomnie.
Othello.
Dis-lui de venir ici. Va.
Emilia sort.
Elle n'est pas à court de parole, mais il faudrait être une entremetteuse bien simple pour ne pas savoir en dire autant. C'est une subtile putain, un réceptacle fermé à clé de secrets infâmes. Et pourtant, elle se met à genoux et prie. Je l'ai vue, moi.
Rentre Emilia avec Desdemona.
Desdemona.
Monseigneur, quelle est votre volonté?
Othello.
Je vous en prie, Poulette, approchez.
Desdemona.
Quel est votre plaisir?
Othello.
Laissez-moi voir vos yeux. Regardez-moi en face.
Desdemona.
Quelle est cette horrible fantaisie?
Othello à Emilia.
À vos fonctions, dame. Laissez seuls ceux qui veulent procréer et fermez la porte. Toussez et criez « Hem » si quelqu'un vient. Votre métier, votre métier. Allons, dépêchez-vous.
Emilia sort.
Desdemona tombant à genoux.
Je vous le demande à genoux. Que signifie votre langage? J'entends une furie dans vos paroles, mais non les paroles.
Othello.
Eh bien, qu'es-tu?
Desdemona.
Votre femme, monseigneur, votre fidèle et loyale femme.
Othello.
Allons, jure cela, damne-toi, de peur que, te croyant du ciel, les démons eux-mêmes ne craignent de te saisir. Donc, damne-toi doublement, jure que tu es honnête.
Desdemona.
Le ciel le sait vraiment.
Othello.
Le ciel sait vraiment que tu es fausse comme l'enfer.
Desdemona.
Envers qui, monseigneur? Envers qui? Comment suis-je fausse?
Othello.
Ah, Desdemona, arrière, arrière, arrière!
Il sanglote.
Desdemona.
Hélas, jour accablant, pourquoi pleurez-vous? Suis-je la cause de ces larmes, monseigneur? Si par hasard vous soupçonnez mon père d'être l'instrument de votre rappel, ne faites pas tomber votre blâme sur moi. Si vous avez perdu son affection, et moi aussi je l'ai perdue.
Othello.
Le ciel aurait voulu m'éprouver par des revers. Il aurait fait pleuvoir toutes sortes de maux et d'humiliations sur ma tête nue. Il m'aurait plongé dans la misère jusqu'aux lèvres. Il m'aurait voué à la captivité, moi, et mes espoirs suprêmes. Eh bien, j'aurais trouvé quelque part dans mon âme une goutte de résignation. Mais, hélas, faire de moi le chiffre fixe que l'heure du mépris désigne de son aiguille lentement mobile. Pourtant, j'aurais pu supporter cela encore. Bien, très bien. Mais le lieu choisi dont j'avais fait le grenier de mon cœur, où je dois tirer la vie sous peine de la perdre, mais la fontaine d'où ma source doit couler pour ne pas se tarir, en être dépossédée, et ne pouvoir la garder que comme une citerne où des crapauds hideux s'accouplent et pullulent. Oh, change de couleur à cette idée. Patience, jeune chérubin aux lèvres roses, et prends un visage sinistre comme l'enfer.
Desdemona.
J'espère que mon noble maître m'estime vertueuse.
Othello.
Oh, oui, autant qu'à la boucherie ces mouches d'été qui engendrent dans un bourdonnement. Oh, fleur sauvage, si adorablement belle, et dont le parfum si suave enivre douloureusement l'essence. Je voudrais que tu ne fusses jamais née.
Desdemona.
Hélas, quel péché ai-je commis à mon insu?
Othello.
Quoi? Cette page si blanche, ce livre si beau, était-il fait pour la plus infâme inscription? Ce que tu as commis? Ce que tu as commis? Ah, fille publique, si je le disais seulement, mes joues deviendraient des forges qui brûleraient toute pudeur jusqu'à la cendre. Ce que tu as commis? Le ciel se bouche le nez et la lune se voile à tes actions. La lascive rafale qui baise tout ce qu'elle rencontre s'engouffre dans les profondeurs de la terre pour ne pas les entendre. Ce que tu as commis, impudente prostituée!
Desdemona.
Par le ciel, vous me faites outrage!
Othello.
Est-ce que vous n'êtes pas une prostituée?
Desdemona.
Non! Aussi vrai que je suis une chrétienne. Si préservée pour mon mari, ce vase pur de tout contact illégitime n'est pas l'acte d'une prostituée. Je n'en suis pas une.
Othello.
Quoi? Vous n'êtes pas une putain?
Desdémona.
Non, aussi vrai que je serai sauvée.
Othello.
Est-ce possible?
Desdémona.
Oh, que le ciel ait pitié de nous.
Othello.
J'implore votre pardon, alors. Je vous prenais pour cette rusée putain de Venise qui a épousé Othello.
Rentre Emilia.
À Emilia.
Vous, dame, vous qui avez fait l'office opposé à celui de Saint-Pierre et qui gardez la porte de l'enfer. Vous, oui, vous. Nous avons fini. Voici de l'argent pour vos peines. Je vous en prie, tournez la clé et gardez-nous le secret.
Il sort. Emilia.
Hélas, qu'a donc dans l'esprit ce gentilhomme? Comment êtes-vous, madame? Comment êtes-vous, ma bonne maîtresse?
Desdémona.
À moitié assoupie, je crois.
Emilia.
Bonne madame, qu'a donc monseigneur?
Desdémona.
Qui?
Emilia.
Celui qui est le vôtre, chère maîtresse.
Desdémona.
Je n'en ai pas. Ne me parle pas, Emilia. Je ne puis pleurer, et je n'ai pas d'autre réponse que celle qui fondrait en nous. Je t'en prie. Cette nuit, mets à mon lit mes draps de noces. N'oublie pas. Et fais venir ton mari ici.
Emilia.
Voilà bien du changement, en vérité.
Elle sort.
Desdémona.
Il était juste que je fusse traitée ainsi. Très juste. Comment me suis-je conduite de façon à lui aspirer le plus petit soupçon d'un si grand crime?
Emilia rentre avec Iago.
Iago.
Quel est votre bon plaisir, madame?
Qu'avez-vous?
Desdémona.
Je ne puis le dire, car ceux qui élèvent de petits enfants le font par des moyens doux et des tâches faciles. Il aurait bien dû me gronder ainsi, car, ma foi, je suis une enfant quand on me gronde.
Iago.
Qu'y a-t-il, madame?
Emilia.
Hélas, Iago, monseigneur l'a traité de putain. Il a déversé sur elle tant d'outrages et de termes accablants qu'un cœur honnête ne peut les supporter.
Desdémona.
Suis-je donc ce nom-là, Iago?
Iago.
Quel nom, belle dame?
Desdémona.
Le nom qu'elle répète et que mon mari dit que je suis.
Emilia.
Il l'a appelé putain. Un mendiant dans son ivresse n'appliquerait pas de pareils termes à sa caillette.
Iago.
Pourquoi a-t-il fait cela?
Desdémona sanglotant.
Je ne sais pas. Je suis sûre que je ne suis pas ce qu'il dit.
Iago.
Ne pleurez pas, ne pleurez pas. Hélas, quel jour!
Emilia.
N'a-t-elle renoncé à tant de nobles alliances, à son père, à son pays et à ses amis, que pour être appelée putain? N'y a-t-il pas là de quoi pleurer?
Desdémona.
Telle est ma misérable destinée.
Iago.
Malheur à lui pour cela. D'où lui vient cet accès?
Desdémona.
Ah, le ciel le sait.
Emilia.
Je vais être pendue si quelque éternel coquin, quelque scélérat affairé et insinuant, quelque maroufle flagorneur et fourbe, n'a pas, pour obtenir quelque emploi, imaginé cette calomnie. Je vais être pendue si cela n'est pas.
Iago.
Fille, il n'existe pas un pareil homme, c'est impossible.
Desdémona.
S'il en existe un pareil, que le ciel lui pardonne.
Emilia, avec véhémence.
Que la potence l'absolve et que l'enfer lui ronge les os! Pourquoi monseigneur la traiterait-il ainsi? Quel visiteur assidu reçoit-elle? En quel lieu? À quel moment? Quelle apparence? Quelle vraisemblance? Le mort est abusé par quelque affreux manant, par quelque grossier manant, par quelque drôle immonde. Oh, ciel, que ne dénonces-tu pas de tel misérable? Que ne mets-tu dans toute main honnête un fouet pour chasser l'infâme tout nu à travers le monde de l'Orient à l'Occident?
Iago à Emilia.
Que les passants ne vous entendent pas.
Emilia.
Oh, malédiction sur cet homme! C'était quelque écuyer de même ordre qui vous avait mis l'esprit à l'envers et vous avait fait suspecter quelque chose entre le mort et moi.
Iago.
Vous êtes une folle, allez!
Desdémona.
Oh, bon Iago, que ferais-je pour regagner mon mari? Mon bon ami, va le chercher, car par la lumière du ciel, je ne sais comment je l'ai perdu. Me voici à genoux. Si jamais ma volonté a péché contre son amour, soit par parole, soit par pensée, soit par action positive, si jamais mon regard, mon oreille, aucun de mes sens a été charmé par quelque autre apparition que lui, Si je cesse à présent, si je n'ai jamais cessé, si... M'eût-il jeté dans les misères du divorce? Je cesse jamais de l'aimer tendrement. Que la consolation se détourne de moi. L'injustice peut beaucoup, et son injustice peut détruire ma vie. Mais jamais elle n'atterrera mon amour. Je ne peux pas dire... Putain, cela me fait horreur, rien que de prononcer le mot. Quant à faire l'acte qui me mériterait ce surnom, non! La masse des vanités de ce monde ne m'y déciderait pas.
Yago,
je vous en prie, calmez-vous. Ce n'est qu'une boutade. Les affaires d'État l'irritent, et c'est à vous qu'il s'en prend.
Desdemona.
Oh, si ce n'était que cela.
Yago.
Ce n'est que cela, je vous assure.
Fanfa.
Écoutez, ces instruments sonnent l'heure du souper. Et les nobles messagers de Venise y assistent. Rentrez et ne pleurez plus. Tout ira bien.
Sortent Desdemona et Emilia. Entre Roderigo.
Iago.
Comment va, Roderigo?
Roderigo.
Je ne trouve pas que tu agisses loyalement envers moi.
Iago.
Qu'ai-je fait de déloyal?
Roderigo.
Chaque jour, tu m'éconduis avec un nouveau prétexte, Iago. Et je m'en aperçois maintenant. Tu éloignes de moi toutes les chances, loin de me fournir la moindre occasion d'espoir. En vérité, je ne le supporterai pas plus longtemps. Et même, je ne suis plus disposé à tolérer paisiblement ce que j'ai eu la bêtise de souffrir jusqu'ici.
Iago.
Voulez-vous m'écouter, Roderigo?
Roderigo.
Ma foi, je vous ai trop écouté, car vos paroles et vos actions n'ont entre elles aucune parenté.
Iago.
Vous m'accusez bien injustement.
Roderigo.
De rien qui ne soit vrai. J'ai épuisé toutes mes ressources. Les bijoux que vous avez eus de moi pour les offrir à Desdemona auraient à demi corrompu une vestale. Vous m'avez dit qu'elle les avait reçus, et vous m'avez rapporté le consolant espoir d'une faveur et d'une récompense prochaine. Mais je ne vois rien encore.
Iago.
Bien, continuez, fort bien.
Roderigo.
Fort bien, continuez. Je ne puis continuer, l'homme, et ce n'est pas fort bien. Par cette main levée, je dis que c'est fort laid, et je commence à trouver que je suis dupe.
Iago.
Fort bien.
Roderigo.
Je vous dis que ce n'est pas fort bien. Je me ferai connaître à Desdemona. Si elle me rend mes bijoux, j'abandonne ma poursuite et je me repens de mes sollicitations illégitimes. Sinon, soyez sûr que je réclamerai de vous satisfaction.
Iago.
Avez-vous tout dit?
Roderigo.
Oui, et je n'ai rien dit que je ne sois hautement résolu à faire.
Iago.
Comment? Mais je vois qu'il y a de la fougue en toi, et même, à dater de ce moment, je fonde sur toi une opinion meilleure que jamais. Donne-moi ta main, Roderigo. Tu as pris contre moi un juste déplaisir. Mais pourtant, je proteste que j'ai agi dans ton affaire avec la plus grande droiture.
Roderigo.
Il n'y a pas paru.
Iago.
J'accorde, en vérité, qu'il n'y a pas paru. Et ta défiance n'est pas dénuée d'esprit ni de jugement. Mais, Roderigo, si tu as vraiment en toi ce que j'ai de meilleure raison que jamais de te croire, c'est-à-dire de la résolution, du courage et de la valeur, que cette nuit même le montre. Et si la nuit prochaine, tu ne possèdes pas Desdemona, enlève-moi de ce monde par un guet-apens, et imagine pour ma part toutes les tortures.
Roderigo.
Voyons, de quoi s'agit-il? Est-ce dans les limites de la raison et du possible?
Iago.
Seigneur, il est arrivé des ordres express de Venise pour mettre Cassio à la place d'Otello.
Roderigo.
Vraiment? Alors, Otello et Desdemona retournent à Venise?
Iago.
Oh non, il va en Mauritanie, et il emmène avec lui la belle Desdemona. À moins que son séjour ici ne soit prolongé par quelque accident. Or, il ne peut y en avoir de plus décisif que l'éloignement de Cassio.
Roderigo.
Qu'entendez-vous par son éloignement?
Iago.
Eh bien, le rendre incapable de remplacer Otello. Lui faire sauter la cervelle.
Roderigo.
Et c'est là ce que vous voulez que je fasse?
Iago.
Oui, si vous osez vous rendre à vous-même service et justice. Il soupe cette nuit avec une drôlesse, et je dois aller le rejoindre. Il ne sait rien encore de son honorable promotion. Si vous voulez le guetter à sa sortie de la maison, je ferai en sorte qu'elle ait lieu entre minuit et une heure, vous pourrez l'assaillir à votre aise. Je serai tout prêt pour seconder votre attaque, et il tombera entre nous deux. Allons, ne restez pas ébahis, mais marchez avec moi. Je vous montrerai si bien la nécessité de sa mort que vous vous croirez tenu de la hâter. Il est maintenant tout à fait l'heure de souper et la nuit s'avance rapidement. À l'œuvre.
Roderigo.
Je veux entendre de nouvelles raisons pour me décider.
Iago.
Vous serez satisfait.
Ils sortent.
Scène 3. Une chambre dans le château entre Otello, Lodovico, Desdemona, Emilia et leur suite.
Lodovico.
Je vous en supplie, monsieur, ne vous dérangez pas davantage.
Otello.
Oh, pardonnez-moi, cela me fera du bien de marcher.
Lodovico.
Madame, bonne nuit. Je remercie humblement votre grâce.
Desdemona.
Votre honneur est le très bienvenu.
Otello.
Marchons-nous, monsieur? Ah, Desdemona.
Desdemona.
Monseigneur.
Otello.
Mettez-vous au lit tout de suite, je serai de retour immédiatement. Congédiez votre suivante, vous entendez bien?
Desdemona.
Oui, monseigneur.
Sortent Otello, Lodovico et la suite.
Emilia.
Comment cela va-t-il à présent? Il a l'air plus doux que tantôt.
Desdemona.
Il dit qu'il va revenir sur le champ. Il m'a commandé de me mettre au lit et de vous congédier.
Emilia.
Me congédier?
Desdemona.
C'est son ordre. Ainsi, ma bonne Emilia, donne-moi mes vêtements de nuit et adieu. N'allons pas lui déplaire à présent.
Emilia.
Je voudrais que vous ne l'eussiez jamais vu.
Desdemona.
Je ne le voudrais pas, moi. Mon amour est si partial pour lui que même sa rigueur, ses brusqueries et ses colères. Dégrafe-moi, je te prie. Ont de la grâce et du charme à mes yeux.
Emilia.
Je mets au lit les draps que vous m'avez dit.
Desdemona.
Rien n'y fait, ma foi. Tête folle que nous sommes. Si je meurs avant toi, je t'en prie. Ensevelis-moi dans un de ces draps.
Emilia.
Allons, allons, vous babillez.
Desdemona.
Ma mère avait une servante appelée Barbarie, qui était amoureuse. Celui qu'elle aimait devint capricieux et l'abandonna. Elle avait une chanson du saule. C'était une vieille chose, mais qui exprimait bien sa situation. Et elle mourut en la chantant. Ce soir, ce chant-là ne peut pas me sortir de l'esprit. J'ai grand-peine à m'empêcher d'incliner la tête de côté et de la chanter, comme la pauvre Barbarie. Je t'en prie, dépêche-toi.
Emilia.
Irai-je chercher votre robe de nuit?
Desdemona.
Non, dégrafe-moi ici. Ce Lodovico est un homme distingué.
Emilia.
Un très bel homme.
Desdemona.
Il parle bien.
Emilia.
Je connais une dame à Venise qui serait allée pieds nus en Palestine pour un attouchement de sa lèvre inférieure.
Desdemona chantant.
La pauvre âme assise soupirait près d'un sycomore. Chantez tous le saule vert. Sa main sur sa poitrine, sa tête sur ses genoux. Chantez le saule, le saule, le saule. Les frais ruisseaux coulaient près d'elle et murmuraient ses plaintes. Chantez le saule, le saule, le saule. En tombant, ses larmes amères amollissaient les pierres.
Donnant quelques objets de toilette à Emilia.
Mets ceci de côté. Chantez le saule, le saule, le saule. Je t'en prie, à toi, il va rentrer. Chantez tous le saule vert dont je ferai ma guirlande. Que personne ne le blâme, j'approuve son dédain.
Non, ce n'est pas là ce qui vient après.
Écoute, qu'est-ce qui frappe?
Emilia.
C'est le vent.
Desdemona.
J'appelais mon amour, amour trompeur. Mais lui, que me répondait-il? Chantez le saule, le saule, le saule. Si je courtise d'autres femmes, couchez avec d'autres hommes. Allons, va-t'en, bonne nuit. Mes yeux me démangent. Est-ce un présage de larmes?
Emilia.
Cela ne signifie rien.
Desdemona.
Je l'ai entendu dire ainsi. Oh, les hommes. Ces hommes. Penses-tu en conscience, dis-moi, Emilia, qu'il y a des femmes qui trompent leur mari d'une façon si grossière?
Emilia.
Il y en a, sans nul doute.
Desdemona.
Ferais-tu une action pareille pour le monde entier?
Emilia.
Voyons, ne la feriez-vous pas?
Desdemona.
Non, par cette lumière céleste.
Emilia.
Ni moi non plus, par cette lumière céleste. Je la ferai aussi bien dans l'obscurité.
Desdemona.
Ferais-tu une action pareille pour le monde entier?
Emilia.
Le monde est chose considérable. C'est un grand prix pour un petit péché.
Desdemona.
Ma foi, je crois que tu ne le ferais pas.
Emilia.
Ma foi, je crois que je la ferais, quitte à la défaire quand je l'aurai faite. Pardieu, je ne ferais pas une pareille chose pour une bague double, pour quelques mesures de linon, pour des robes, des jupons, des chapeaux, ni autre menue parure, mais pour le monde entier. Voyons, qui ne ferait pas son mari cocu pour le faire monarque? Je risquerais le purgatoire pour ça.
Desdémona.
Que je sois maudite si je fais une pareille faute pour le monde entier.
Émilia.
Bah, la faute n'est faute que dans ce monde. Or, si vous aviez le monde pour la peine, la faute n'existerait que dans votre propre monde, et vous pourriez vite l'ériger en mérite.
Desdémona.
Moi, je ne crois pas qu'il y ait des femmes pareilles.
Émilia.
Si fait, une douzaine, et plus encore, et tout autant qu'on pourrait tenir le monde servant d'enjeu. Mais je pense que c'est la faute de leur mari si les femmes succombent. S'il arrive à ceux-ci de négliger leurs devoirs et de verser nos trésors dans quelque giron étranger, ou d'éclater en moussa de jalousie et de nous soumettre à la contrainte, ou encore de nous frapper ou de réduire par dépit notre budget accoutumé, eh bien, nous ne sommes pas sans fiel, et quelque vertu que nous ayons, nous avons de la rancune. Que les maris le sachent, leurs femmes ont des sens comme eux, elles voient, elles sentent, elles ont un palais pour le doux comme pour l'aigre, ainsi que les maris. Qu'est-ce donc qui les fait agir quand ils nous changent pour d'autres? Est-ce le plaisir? Je le crois. Est-ce l'entraînement de la passion? Je le crois aussi. Est-ce l'erreur de la faiblesse? Oui, encore. Eh bien, n'avons-nous pas des passions, des goûts de plaisir et des faiblesses, tout comme les hommes? Alors qu'ils nous traitent bien, autrement qu'ils sachent que leurs torts envers nous nous autorisent nos torts envers eux.
Desdémona.
Bonne nuit, bonne nuit. Que le ciel m'inspire l'habitude, non de tirer le mal du mal, mais de faire servir le mal au mieux.
Elle sort.